163e numéro de Wagon Livre, votre rendez-vous culturel comme chaque mercredi à 21h depuis novembre 2010. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous être fidèles. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour une émission dont l'invité va nous ramener durant les sombres années d'occupation. Effectivement, elle est ce soir en embuscade avec son dernier ouvrage, un peu comme pouvaient l'être les FFI. Elle est en embuscade avec son dernier ouvrage qui a pour titre « Le Maquis Serge », disponible en librairie aux éditions Sutone. Et nous accueillons Noël Renaud. Bonsoir Noël Renaud.
Bonsoir.
Merci au public qui est avec nous, puisque l'émission de ce soir a été enregistrée à la librairie L'Autre Monde, rue à Avallon. Et nous remercions celles et ceux qui sont venus donc participer à ces rencontres sympathiques, régulières. Et puis bien sûr, je remercie Carole Amicel et Evelyne Levallois, les libraires, de nous accueillir, de nous recevoir, de nous soutenir aussi. Et on retrouvera Evelyne, que je salue d'ailleurs.
Bonsoir.
Evelyne, on te retrouve en fin d'émission pour le traditionnel coup de cœur. Noël Renaud, donc un nouvel ouvrage. Alors Noël, bien sûr, on vous connaît essentiellement pour vos travaux extrêmement sérieux et j'allais dire depuis de nombreuses années sur la nourrice du Morvan, les nourrices du Morvan. Noël avait besoin un peu de s'oxygéner le cerveau. Certes, vous aviez des ancêtres, une ancêtre nourrice. Vous aviez un arrière-grand-père ou un grand-père.
Mon père.
Votre Maquisard. Père était Maquisard. Alors, vous voilà revenu un petit peu aux racines. Et notamment, cet ouvrage sur ce maquis Serge. Alors, maquis Serge, on va en parler parce que il est dit dans le livre qu'il s'agit d'un maquis oublié, d'un maquis même mal aimé, dit un des personnages dont vous avez collecté le témoignage. Noël, on vous a présenté d'ailleurs dans une préface comme la grande spécialiste de cette période troublée. Alors vous aviez déjà commis un ouvrage sur la résistance en Morvan.
Oui, alors je fais partie de l'amicale du maquis Bernard, qui était le maquis voisin du maquis Serge. Et donc, avec l'amicale du maquis Bernard et avec le secrétaire, M. Collet, nous avons écrit un gros ouvrage qui s'appelle « Résistance en Morvan », mais sur l'histoire du maquis Bernard. Et puis, finalement, pour changer un peu des nourrices, j'ai rencontré M. Auchard, qui était le neveu de Serge. Et M. Auchard avait tous ses documents. Et bon, je me suis dit que peut-être ça allait être intéressant de parler de Serge.
Alors justement, parler du maquis Serge, c'est aussi rappeler dans l'histoire combien le Morvan isolé et boisé a été une terre, j'allais dire, fertile au niveau de l'éclosion des maquis.
Oui, bien sûr, puisque on pouvait se cacher, on pouvait s'isoler. Il faut dire aussi qu'il y a eu une vingtaine de maquis, je crois, sur le Morvan, à peu près. Mais tous n'avaient pas la même importance. Et c'est vrai que j'entendais toujours parler de ce maquis Serge, mais finalement, on ne le voyait pas. Il y a très peu d'écrits sur ce maquis. Bon, il y a quand même certains ouvrages qui le relatent. Mais on n'avait pas vraiment collecté... Enfin, je crois qu'on n'avait pas collecté les anciens, les derniers maquisards. Puisque grâce à Michel Salès, c'est lui qui m'a piloté pour retrouver les derniers. Donc on a beaucoup collecté, surtout sur la Saône-et-Loire, puisque vous verrez dans cet ouvrage que Serge était surtout basé en Saône-et-Loire.
Quelle est la situation du Morvan dans les années qui nous intéressent, à savoir les années 42-43?
Ben la situation n'est pas très brillante, puisque bien sûr on est occupé. Et puis le STO est passé par là, et bien entendu, ça va donner au maquis un élan formidable, puisque beaucoup de morvandiaux requis au STO vont être obligés de se cacher.
Alors, peut-être donc, faut-il rappeler ce qu'est le STO.
Ah, le STO, alors donc service du travail obligatoire, instauré par les Allemands. Donc tous les gens, alors je crois que ça commence là, les gens qui étaient nés en 22, je crois, Michel, 1922-23, donc ces gens qui avaient 20 ans étaient obligés d'aller travailler en Allemagne. Et beaucoup ont refusé, et bien sûr se sont réfugiés dans les maquis. Alors maquis Bernard, maquis Serge, etc.
Maquis Leloup, le maquis Daniel, vous en citez nombreux, hein, le maquis Henri, Mario, Bernard, le maquis Socrate.
Oui, bien sûr.
Et puis il y a le maquis de Chaumard aussi.
Oui, alors le maquis de Chaumard qui a très peu vécu, puisqu'il y a eu une dénonciation et malheureusement les Allemands ont attaqué et il a été vraiment détruit. Et certains du maquis de Chaumard, certains maquisards, donc, se sont réfugiés au maquis Serge et au maquis Bernard.
En fait, initialement, gonfler les effectifs des maquis était relativement facile, puisque les jeunes fuyant le STO, il y avait des Israélites, il y avait des Parisiens aussi qui quittaient ville et qui venaient carrément s'engager.
Oui.
Alors bien sûr, il fallait trouver des filières, il fallait...
Comment
est-on informé et comment peut-on intégrer un maquis?
Ben, c'était pas très compliqué, seulement le bouche à oreille fonctionnait. Seulement le problème qui va se poser assez rapidement, c'est que ces maquis, maquis Serge, maquis Bernard, ne sont pas du tout équipés au départ. On n'a pas d'armes, donc c'est très compliqué. Et il y a beaucoup de jeunes qui voulaient rentrer au maquis, mais qui finalement restaient dans leur famille ou dans les fermes parce que on leur refusait de rentrer au maquis, parce qu'on n'était pas équipés.
Alors, c'est effectivement un vrai problème, parce qu'il y a un manque, pénurie d'armes,
oui.
Et effectivement, l'encadrement militaire, ne peut pas se faire dans la mesure où les armes font défaut.
Oui. Alors après, bien sûr, on va avoir les parachutages, les Anglais vont arriver, heureusement qu'ils vont parachuter des armes, etc. Et qu'ils vont venir aussi encadrer les maquisards.
Alors, on va parler plus en détail du maquis Serge, mais si je vous ai bien lu Noël Renault, on a la très forte impression que la population locale a considérablement été complice, dans le bon sens du terme, avec la naissance, l'éclosion de ce maquis. Alors pourquoi tant de solidarité? Pourquoi, une adhésion aussi forte de la part de la population pour ce maquis? Est-ce que c'est lié à la personnalité de Serge?
Je pense, quand même, parce que bon, ça, la famille...
Serge. Sa femme était quand même native
de château.
De château. Oui, c'est sûr.
Bon, il était quand même bien ancré dans le Morvan. Et je pense aussi que il y a eu certainement un élan des Morvandiaux pour ces deux maquis que je connais un peu plus, maquis Serge et maquis Bernard.
Alors, on parle beaucoup de Serge, de son vrai nom, Gérard Drouin. Alors, peut-être pourrait-on avoir quelques éléments sur ce Gérard Drouin qui est la figure initiatrice du maquis Serge.
Mais il était déjà connu en Morvan.
Il était connu en Morvan comme musicien.
Oui.
Il était connu en Morvan comme musicien. Et puis il faut quand même rappeler que ce secteur-là est un secteur qui politiquement est à gauche aussi. Hein. Bon, Serge a été militant aussi du Parti communiste sur Montceau-les-Mines.
Oui.
Hein, donc, si vous voulez, il y a ce côté aussi qui a rassemblé aussi. Hein. Beaucoup de jeunes de la commune de Planchet, du canton de Monsauche aussi, sont entrés dans ce maquis, hein, qui deviendra à la fin un maquis FFI, mais qui au départ était un maquis assez marqué. Bon, il faut le dire, c'est comme ça, quoi.
Oui. Hein, donc il était quand même très connu, il animait des balles, donc il était connu en Morvan, et sa famille aussi.
Alors le maquis Serge se constitue à partir de mai 1943.
Mai 43.
Ils étaient peu nombreux. Hein.
Oui. Comme de nombreux maquis, hein, au départ, ils sont une dizaine, hein, comme le maquis Bernard d'ailleurs. Et après, les Parisiens arrivent, les Israélites arrivent, donc il y a quand même beaucoup de gens qui sont obligés de se cacher, et voilà, ils rentraient dans les
maquis. Ils résidaient à Montceau-les-Mines. Et il avait déjà, avant la création du maquis, il avait déjà fait des actions personnelles de sabotage.
Sur Autun.
Sur Autun et sur Montceau-les-Mines.
Mmh. En fait, Serge avait déjà été dénoncé.
Il
avait déjà échappé à la Gestapo.
Il est poursuivi déjà par la Gestapo. Il est poursuivi par les Allemands aussi. Et puis par la gendarmerie française qui est sous obédience allemande. Hein. C'est comme ça qu'il arrive là. Et pourquoi il vient dans le Morvan? Parce que sa femme est native du Haut-Morvan. Mmh. Hein. Lui, un mot de château, où il connaît, c'est qu'il y a des grands bois où il va pouvoir organiser et créer quelque chose.
Si vous le voulez bien, Noël, on va écouter le chant des partisans. Je crois qu'on ne pouvait pas trouver mieux comme première illustration musicale à notre entretien. On se retrouve dans une poignée de minutes avec vous, Noël Renault, pour le maquis Serge, qui est le titre de votre dernier ouvrage, disponible donc aux éditions Sutton.
vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers des paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades! Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute.
Suite de Wagon Livre avec Noël Renaud et puis Michel Salès nous a rejoint. Noël, vous le présentez un peu à nos auditrices et auditeurs.
Alors Michel Salès, c'est un ami de la famille. Il n'est pas tout à fait du Morvan, mais il s'est tout à fait bien intégré puisque son épouse était originaire de Plancher. Et Serge, et Michel, c'est la mémoire du Morvan. Donc il connaît beaucoup de choses, il est musicien également. Et grâce à lui, j'ai pu contacter les anciens maquisards qui disparaissent assez rapidement. Et puis ses cousins, monsieur et madame Brossier, puisque le papa de madame Brossier était au maquis Serge. Donc c'est lui qui est le fil conducteur de cet ouvrage.
Alors, le papa, le tonton, toute la famille. Toute la famille d'Annick, là, était dans ce maquis. C'est d'ailleurs les premiers du maquis. Hein. C'est eux qui ont débuté aussi avec Serge.
Alors, il faut que les choses soient bien claires pour celles et ceux qui nous suivent. Le maquis Serge, donc on est au cœur du Morvan, on est dans la grande région de Château-Chinon, très précisément dans c'est un hameau qui s'appelle Château et qui fait partie de la commune de Plancher en Morvan.
Voilà,
on est dans la Nièvre.
Pas très loin du lac des Sept-Onds.
On est dans la Nièvre.
Oui, on est dans la Nièvre.
On est dans la Nièvre. Nous sommes bien d'accord. Alors, comment se fait-il que le maquis Serge se trouve comme ça, j'allais dire, centré sur ce hameau? Serge résidait là avec son épouse?
Non, il ne résidait pas avec son épouse, mais son épouse était native du hameau de Château. Son épouse était native du hameau de Château. Lui travaillait parce qu'il a son cursus professionnel. Il a travaillé dans les mines, à Monceau-les-Mines. Après, il a appris la typographie, il était typographe. En même temps, il était musicien. Ça a d'ailleurs été un musicien qui a été primé. C'était un très, très, très bon musicien, surtout après la guerre. C'est vrai que c'est surtout là qu'il a... Mais bon, et puis voilà, quoi. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il était aussi politiquement engagé. Hein. Bon, et c'est vrai qu'il a débuté par faire, effectivement, tout un tas d'événements pour enquiquiner les Allemands, bien entendu, à Monceau-les-Mines. Bon, il est arrivé à Montréal, il a d'ailleurs été emprisonné à la prison d'Autun, et c'est finalement des camarades qui l'ont aidé à se sauver de la prison d'Autun. Bon, il a fallu qu'il s'en aille du coin, quoi. Et il est donc parti, il est monté où? Dans le Morvan, parce que c'était le point de chute le plus près pour lui, pour aller se cacher dans les bois. Et il est parti avec deux, trois compagnons, deux, trois camarades aussi, qui l'ont aidé à... Au départ, parce qu'il fallait quand même manger aussi, il fallait travailler. Il faisait du bûcheronnage, d'ailleurs, avec la famille Brossier. Il faisait du bûcheronnage. Et puis, tout doucement, il a noyauté et il a créé ce maquis. Et il s'est installé donc dans le hameau de naissance de son épouse.
Alors, c'est essentiellement des gens de 30-40 ans qui...
Oh, même plus jeunes.
Même plus jeunes, oui.
Même plus jeunes. Et puis là, c'était des jeunes qui avaient entre 20 et 30 ans, hein. C'était pas 30-40 ans, hein. C'est 20 et 30 ans. Alors il y en a des plus vieux aussi. Il y en a des plus vieux parce qu'on retrouve au travers des gens qui sont cités, d'ailleurs on retrouve des militants de la région aussi, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Hein. C'est quand même, au départ, un maquis marqué, un petit peu à gauche, c'est sûr, mais bon, qui a accueilli effectivement la STO, et bon, il n'y avait pas que les STO du coin, hein, bon. Il y en est venu beaucoup de Paris aussi, d'un petit peu partout.
Mais des recrues qui viennent surtout de Saône-et-Loire.
Oui.
Ah oui. Oui, d'ailleurs toute son action a été aussi beaucoup sur la Saône-et-Loire, et il est intervenu dans la bataille de Cruz-la-Ville dans la Nièvre, parce que quand même, bon, il était quand même aussi dans la Nièvre, mais son action a surtout, et puis chose qu'il faut préciser, il a participé à la libération d'Autun. Oui. D'ailleurs, il a été récompensé rapport à ça. Hein. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens de Saône-et-Loire, c'est sûr. D'ailleurs, là, mon cousin, là, qui est le trésorier de l'amicale des maquis d'Autun, de l'Autunois, tu peux aussi le dire, hein, parce que c'est vrai qu'on le retrouve dans cette association-là, beaucoup d'anciens du maquis, enfin plus beaucoup maintenant.
Non, parce que ce sont des gens qui ont. Toutes ces personnes ont 90 ans, 93 ans,
ah bah oui,
mais il y a encore notamment des gens du maquis Socrate, du maquis Maurice, qui étaient beaucoup plus sur l'Autunois. Et qui ont eu l'occasion de travailler pendant cette période avec le maquis Serge, qui sont encore présents. D'ailleurs, vous les avez interrogés, vous les avez interviewés dans votre ouvrage, et pour certains, ils ont encore une mémoire assez fidèle. Hein.
Oh, bien sûr.
Ce qui est formidable quand même, c'est que Serge, à la libération d'Autun, Michel Salès, le général Delatte de Tassigny le choisit alors comme aide de camp,
oui.
Et Serge va devenir l'administrateur civil et militaire de la ville en attendant la nomination d'un préfet.
Oui. Hein. Bien sûr.
Alors, on pourrait peut-être passer en revue les grandes dates. Enfin, j'ai listé un peu les... Durant l'hiver 43-44, c'est la saison où on essaie quand même d'avoir des armes, parce que c'est le point clé de la survie d'un maquis, c'est être armé. Alors, il y a un épisode qui est tragicomique, c'est ce parachutage, on pourrait peut-être en parler. Alors, c'est un parachutage qui a lieu le 3 juin 1944, qui était destiné au maquis Bernard. Et finalement, ce sont les hommes du maquis Serge qui vont récupérer le matériel
ouais.
Par erreur, finalement.
Ben oui, parce que le maquis Serge entend un avion, et puis il se doute qu'il va se passer quelque chose. Donc c'est eux qui vont manipuler les lumières, et puis bien sûr, l'avion va voir ces lumières et il va parachuter. Mais comme le maquis Serge est très près du maquis Bernard...
Oui, ils sont très proches.
Voilà, ils sont très proches, donc... Évidemment, Serge
se
précipite pour récupérer les armes.
Dans mon introduction, j'ai dit, et ce n'est pas moi qui l'invente, hein, c'est un des témoignages des maquisards, du maquis Serge, qui dit « Notre maquis était mal aimé, mal aimé aussi à cause de cette erreur de réception du matériel de parachutage qui n'était pas destiné au maquis
mal
Serge. »
Mal aimé, c'est bien un grand mot, je crois qu'il ne faut pas dramatiser dans ce domaine-là. Moi, j'ai eu l'occasion, si vous voulez, de rencontrer et d'en parler, d'ailleurs, du maquis Serge avec Jean Longhi. Jean Longhi, qui a été une sommité des maquis de la Nièvre, c'est lui qui a rassemblé tous les maquis. Et je me souviens d'avoir passé, si vous voulez, une journée complète avec lui pour l'interroger, d'ailleurs, sur les travaux des différents maquis. Pour lui, c'était un maquis qui était aussi valable que les autres maquis. Hein. Alors absolument, je l'entends encore me dire, mais mon petit gars, Serge, c'est un maquis, il est au même rang que les autres. Hein. Bon, pourquoi on a l'impression qu'effectivement, il a été oublié? C'est vrai, parce que tous les gens qui ont écrit, et tu as eu raison de le dire tout à l'heure, il a été laissé de côté. Il a été laissé de côté. Pourquoi? L'explication, je crois qu'on l'a fournie déjà depuis un petit moment, l'explication. Il était effectivement, toute son action a été sur la Saône-et-Loire.
Oui.
Bon, il intervient dans la Nièvre, principalement à la bataille de Cruz-la-Ville, hein, où il va en renfort pour essayer de dégager le maquis Daniel qui est pris dans un truc infernal. C'est ça l'explication. Hein.
Parmi les figures remarquables du maquis Serge, il y a un ecclésiastique.
Ah, le curé de Chabannes.
Ah, alors Noël, un mot du curé de Chabannes.
Alors le curé de Chabannes, donc qui était curé de Planchers à l'époque, finalement il fréquentait aussi les Allemands parce qu'il était obligé, Mais il leur soutirait beaucoup de renseignements, et après, bien sûr, il les communiquait au maquis. Donc, vous avez vu dans l'ouvrage, il était, c'était un homme qui aimait bien vivre, bien vivre, il aimait bien manger, je crois qu'il aimait bien boire aussi, il était très jovial, très chaleureux, et donc là, c'est un personnage incontournable.
Il est incontournable, et puis c'est amusant d'imaginer ce curé avec pistolet et grenade en dessous de la soutane.
De la soutane.
C'est quand même une image exceptionnelle. C'est
un personnage.
Au niveau des effectifs du maquis Serge, Noël Renaud, vous mentionnez 150 maquisards au printemps 44, et sur la fin, on est sur un gros maquis de plus de 400 hommes.
D'après les renseignements que j'ai, oui. Donc c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Bon, à côté de ça, le maquis Bernard, ils ont fini à 1200, je crois.
Oui, oui.
1200. Bon, peut-être que le chiffre du maquis Serge n'est pas tout à fait exact, on n'était pas tout à fait d'accord. Mais bon, on a quand même aussi les cahiers de recrutement.
Alors, ce qui est surprenant, est-ce que ce n'était pas dangereux d'avoir les noms des
évidemment.
Gens du maquis et les personnes à contacter en cas, par euphémisme, d'accident
Non, c'est l'organisation du maquis, ça, qui voulait ça. C'est quand même une organisation militaire. Bah oui, parce qu'effectivement, en cas d'accident, il y avait les personnes à contacter.
Hein, mais on a aussi des gens qui vivent sous une autre identité.
Et là, ça,
et ça posait problème quand il y avait justement un accident, quand il y avait un mort, il y a des maquisards qu'on n'a pas pu identifier.
Alors je vois qu'il y a aussi reproduit des chansons de l'époque, avec partition LR. Noël, vous n'êtes pas en mesure de nous en chantonner une petite.
Non.
Là, sur les nourrices que vous pouvez chantonner.
Oui, là, sur les nourrices, je peux, mais... et ça, je ne me souviens plus où on avait retrouvé c'était chez vous.
La chanson donc du maquis Serge.
Du maquis Serge. Bob, la Java des nazis, donc là, ce sont des documents qu'on a retrouvés à la fiole. Mais là, non, je ne connais pas l'air.
Henri connaissait l'air. Oui.
Enfin, vous ne connaissez pas l'air.
Non.
Nous, à Radion, on n'a pas retrouvé dans nos archives ces chansons, mais on en a plein d'autres, des chansons. Alors on marque, si vous le voulez bien, une petite pause musicale, le temps que vous vous réhydratiez un peu, et puis on évoquera, bien évidemment... le drame de Plancher, qui m'a beaucoup rappelé Dain les Places, mais il semblerait que Dain les Places ait été beaucoup plus tragique que Plancher en Morvan. On en reparle juste après la pause musicale.
Pity, heal the hole that ripped in living.
retour à bord de Wagon Livre, une émission enregistrée en public autour de Noël Renaud à la librairie L'Autre Monde à Avallon. Merci le public de vous manifester. Et nous parlons ce soir du dernier ouvrage de notre invité, Noël Renaud, Le Maquis Serge, un ouvrage disponible en librairie aux éditions Sutton. On s'est quitté en évoquant le drame de Plancher en Morvan. Ça se situe en juin 1944. Noël Renaud, Michel Salès, je vous laisse...
Alors donc, jour-là, les maquisards du maquis Bernard vont attaquer un convoi d'Allemands qui revient de Montsauge et qui remonte sur Château-Chinon. Donc les maquisards attaquent et là, ça va être le gros drame. Donc il y a des Allemands de tués, bien entendu, un maquisard, Châtaigneau, qui sera tué également. Et malheureusement, les représailles vont être terribles. Donc le village de Montsauge va être évacué. Les gens vont avoir une heure ou deux pour partir. Et Montsauge va être brûlé. Et dans la foulée, le village de Plancher va également être brûlé.
Il y aura un mort aussi.
Un mort à Plancher.
Un ancien de 14 qui sera fusillé dans son jardin.
Alors ce qui est intéressant, c'est que votre livre, Noël Renaud, présente... c'est très intéressant d'ailleurs, le face-à-face, le plancher avant la destruction, le plancher et après l'incendie.
Oui, parce que les gens ont bien gardé tous ces documents. Donc là, on a beaucoup de photos de plancher avant. Et également, malheureusement, après le village brûlé.
On a évoqué Dain les Places, qui est un autre, j'allais dire, presque lieu de mémoire dans la Nièvre autour de... Oui. Michel Salès, un petit mot peut-être sur Dain les Places?
Oui, bien sûr, mais enfin, Dain les Places, c'est un gros drame, Dain les Places. Hein. C'est quelque chose de très important.
C'est un oradour-sur-Glane nivernais.
Oui, on pourrait dire ça, oui, on peut dire ça, c'est un oradour-sur-Glane, c'est sûr. C'est pas du tout, si vous voulez, d'ailleurs, la même compagnie d'Allemands. Ceux qui ont brûlé Montsauge et puis Plancher sont ceux qui étaient à Château-Chinon. Alors que Dain les Places, c'est toute une compagnie qui s'est déplacée, qui est venue de Nevers. Et ça a été quelque chose qui a été, pas de Nevers, de Dijon, c'est quelque chose qui a été prévu, si vous voulez. C'est une représaille très, très importante. Hein, pour marquer. Alors là c'est un drame, un gros drame. Il y a eu 27 tués, le village brûlé.
Et là, c'était le maquis Camille.
Oui, le maquis au-dessus.
Maquis à Vermont.
C'est suite aussi du fait qu'il y avait un maquis qui était d'ailleurs très, très actif, qui était dans le vieux Dain, le maquis de Vermont d'ailleurs, où il y avait d'ailleurs l'hôpital qui était dirigé par le fameux Toubib, hein, qui a été évacué au dernier moment, parce que bon, les Allemands avaient quand même amené, pas une division, mais beaucoup d'hommes. Ils sont arrivés, ils ont cloisonné tout le village, tout a été... ça a duré deux jours. Hein.
Noël Renaud, Michel Salès, tous deux, vous nous ramenez à des événements que la plupart d'entre nous ici n'avons ni vécu, ni connu, et j'allais dire tant mieux. Néanmoins, la mémoire reste. J'ai été interpellé en me disant, ces maquisards à la libération, ces gens qui avaient vécu dans la clandestinité, dans des conditions particulières de survie, où il fallait être extrêmement prudent pour soi, pour le maquis et pour ses proches, comment ces gens ont-ils repris une vie normale, en dehors des commandements militaires, de la discipline? On retourne à la vie civile aisément, sans nostalgie, parce qu'il y a eu des nostalgiques du combat. Ou alors, oui, ils sont partis en Indochine, dans la foulée, et ils se sont engagés.
Oui, il y en a beaucoup aussi qui sont partis en Allemagne.
Oui, avec la première armée,
le Danube. Il y en a qui ont suivi le
de l'âtre.
Il y en a pas mal qui ont suivi de l'âtre.
Hein. Et il y en a d'autres qui reviennent à la vie civile. Bon, oui.
Quitte le Morvan d'ailleurs, quitte le Morvan parce que bon, déjà le Morvan est une région pauvre, où il n'y a pas de travail, il n'y a pas beaucoup de travail, il n'y en a toujours pas plus d'ailleurs, enfin bon, il n'y a pas de travail, et les gens vont s'en aller pour refaire une, on ne va pas dire une situation, mais beaucoup sont montés sur Paris. Hein,
alors Serge, lui, après la guerre, reste dans son Morvan auquel il est tant attaché. Alors, il meurt en 67, son épouse meurt en 2009, et Serge reprend, alors là, il va être à nouveau très connu, il monte un peu sur les planches, mais en tant que musicien.
En tant que musicien,
de jazz.
Il va habiter au Tain.
Un peu le Sidney Bechet de la Nièvre.
Il va créer une école de musique, d'ailleurs, à Autun, où il aura des élèves. Mais il ne vivra pas dans le Morvan, il sera à Autun.
À Autun, c'est le Morvan.
D'accord.
Très bien. Ne réveillons pas les susceptibilités des identitaires morvandiaux. Les deux à mes côtés, soyons prudents.
Et comme on dit, Corbigny n'est pas morvan, mais les poules y vont en champ.
Voilà.
Très bien. Vous me laissez bouche bée, Noël. En 56, on inaugure un monument qui va être élevé à la gloire du maquis Serge, en présence de François Mitterrand,
oui.
S'il vous plaît,
mais oui.
Qui est à l'époque ministre de la Justice et qui était peut-être en même temps aussi conseiller général.
Conseiller général du canton et député de la Nièvre. Il était déjà député.
Et c'est lui qui a quand même bien aidé Serge à...
Oui, c'est vrai.
À toutes ces cérémonies et puis... à la construction de ce monument. On a retrouvé aussi des photos intéressantes. On voit M. Mitterrand qui est assez jeune, là.
Et aux côtés de Serge.
Aux côtés de Serge.
Il faut dire qu'effectivement, il y a beaucoup de portraits de ces membres du maquis Serge. Il y a des reproductions, des facsimilés de la presse, des photos, beaucoup de photos souvenirs, des photos des...
De l'orchestre de Serge,
les citations et les photos de plancher avant l'incendie et
donc,
après
l'incendie.
Donc il
y avait quand même assez de documents.
Et puis ces portraits d'hommes très jeunes, effectivement, oui. qui ne sont plus de ce monde.
Et oui, il y en a beaucoup qui ont disparu depuis l'apparition de l'ouvrage. Oui.
Et comment se fait-il qu'on n'ait pas tenté de recueillir plus tôt? Ou alors ça a été fait ou de manière,
alors, justement, quand M. Auchard m'avait confié ces documents, il y a une étudiante qui avait commencé à travailler sur ce thème. Et puis, elle a arrêté pour diverses raisons. Donc, c'est pour ça que je m'étais dit, c'est dommage, il y avait quand même matière à réaliser un ouvrage.
Il y a eu une amicale qui a été créée, les anciens du maquis Serge, dont le siège était à la mairie de Planchers. C'est une amicale qui a été active de nombreuses années, et puis l'effectif disparaissant, si vous voulez, les trois quarts d'ailleurs faisaient en plus partie, si vous voulez, de l'association des anciens combattants de la commune. Bon, j'en suis encore le président, on est plus nombreux, on doit être 6 ou 7, mais tous les maquisards, notamment de Planchers, adhéraient naturellement à cette association. Mais si vous voulez, manque de soldats, il n'y a plus personne, hein. C'est comme ça que ça a disparu tout doucement, et ils ont décidé, les derniers, de se regrouper avec les maquis de l'Autunois, de façon à ce qu'il y ait quand même une trace aussi de ce maquis Serge.
Bien. Evelyne Levallois, notre libraire qui nous accueille, a des questions pour vous. Evelyne.
Oui, Noël. Yannick, tout à l'heure, se demandait, est-ce que c'était pas un peu dangereux ces registres de maquisards?
Oui.
Moi, ce qui m'a surpris, c'est ces photos. On voit les gars avec des armes, sur des motos, il y a des photos partout. C'est pas dangereux de faire des photos de ce type-là, à cette époque-là ?
Oui, mais bon, il faut aussi penser que c'était des hommes jeunes, et puis ils avaient vraiment l'envie, certains, de se montrer aussi. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'accidents. Par exemple, on parlait de Châtaigneau, le maquisard du maquis Bernard, qui s'est fait tuer à la fameuse bataille de la Verrerie. Bon, c'était des gens un petit peu inconscients, un peu tête brûlée, à mon avis. Alors lui, il s'est fait tuer par les Allemands parce que... tu me contrediras si je dis une bêtise, je crois qu'il avait un bandeau blanc ou quelque chose de blanc sur lui. Alors évidemment, quand il s'est mis à tirer, les Allemands l'ont vu tout de suite et l'ont tué. Donc il s'est fait tuer, je veux dire, bêtement.
Enfin, bêtement.
Mais c'était quand même des gens qui en voulaient. Alors c'est vrai que ces registres étaient bien cachés. Normalement, ils étaient bien cachés. Mais si les Allemands étaient tombés dessus, je ne sais pas ce que ça aurait donné.
Il y a, Noël, dans votre ouvrage, ce témoignage d'un maquisard du maquis Serge qui se souvient avoir commis une bévue pour... fixer des bâches, mais avec des bouteilles.
Ah oui, oui.
Et Serge, là, carrément, le menace avec son... Il dit, oui. Tu enlèves tout de suite tes bouteilles.
Oui, parce que...
J'ai trouvé quand même
donc,
que ça ne rigolait pas dans le maquis.
Il avait fixé une toile de parachute et puis il avait mis des bouteilles au coin pour recueillir l'eau qui pouvait couler quand il pleuvait. Et évidemment, Serge, tout de suite, a pensé que ces bouteilles pouvaient avoir des reflets. Par exemple, des avions qui passaient la nuit. Donc, évidemment... et là, Serge était... je pense que c'était quelqu'un d'assez... directif, d'après les témoignages que j'ai pu recueillir.
Et la sécurité.
Mais ça, c'était... Et c'est pour ça que ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'était des jeunes qui souvent étaient inconscients. Pour certains.
On va marquer une nouvelle pause musicale, Noël Renaud et Michel Salès. Dans une dizaine de minutes, on retrouvera le coup de cœur de notre libraire partenaire, Evelyne Levallois, de la librairie L'Autre Monde, aux 42 Grandes Rues à Avallon. Pause musicale, et puis Noël, si vous le voulez bien, vous allez changer un peu de casquette, on va s'attribuer 10 minutes pour parler un petit peu des nourrices, si vous le voulez bien, mais d'abord, la pause musicale.
J'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars en chocolat. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire, je vois souvent dans des montgolfières des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches, j'ai 10 ans, les filles c'est les cloches, j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Bien caché dans ma cabane, je suis le roi de la sarbacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai des prix chez le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, tard ta gueule à la récré.
Vous avez manqué le début de cette émission, retrouvez-la d'ici quelques jours, Noël, vous le savez, en podcast sur le site de Radion. D'un clic, c'est facile et pratique. On vous souhaite bien sûr une agréable soirée. Alors une soirée qui est placée sous le signe de l'histoire locale avec notre invité Noël Renaud, qui est devant notre micro et qui nous a présenté donc son dernier ouvrage aux éditions Sutone, Le Maquis Serge. On laisse de côté le maquis. Et on s'attache un peu avec vous, Noël, à parler d'un thème qui vous est cher, puisque vous êtes arrière-petite-fille de nourrice.
Oui.
Et je retrouvais dans mes archives. On avait parlé de votre livre consacré aux nourrices, toujours aux éditions Sutone, je crois que c'était il y a 2 ans, semble-t-il.
Je crois,
où j'étais
oui.
Allé vous voir chez vous, à Athée, où on est si bien, au calme, là-bas, à la campagne, aux côtés de Philippe Berthelangeau, votre mari, qui est bien connu aussi. Et puis bien sûr, il y a de très belles poules, de très belles poules, c'est vrai, exotiques, de toutes races, toutes espèces que Noël et Philippe vont chercher jusqu'au fin fond de l'Europe. Hein. C'est bien vrai, Noël.
C'est tout. Oui, hein? C'est exact.
Ah,
oui.
Je suis bien renseigné. Oui, sous les nourrices, je le suis un petit peu, mais j'aimerais, Noël, qu'on rappelle que ce phénomène des nourrices est très ancien, puisque la nourrice gauloise avait déjà des vertus. Peut-être faut-il rappeler ce qu'est cette industrie des nourrices, parce qu'on a parlé d'industrie des nourrices, oui. Parce qu'il y avait quand même une exploitation de ces femmes. Pourquoi les Morvandelles ont-elles offert leur lait aux grandes familles aristocratiques et bourgeoises au XIXe siècle?
Eh bien, parce qu'elles étaient réputées pour la qualité de leur lait. Donc, vous l'avez rappelé, déjà, dans l'Antiquité, on louait la qualité du lait des Gauloises. Donc, il y a eu un phénomène extraordinaire, surtout au XIXe. L'aristocratie et la bourgeoisie voulaient avoir chez eux, donc, une nourrice. C'était pratique d'avoir quelqu'un qui donnait son lait. Elles étaient réputées, ces Morvandelles, pour la qualité de leur lait. Elles étaient réputées pour leur beauté. Donc, on voulait que les enfants de l'aristocratie ouvrent les yeux sur des belles femmes. Et bien sûr, un autre phénomène a joué, un autre paramètre, c'est qu'on est près de Paris, 250 km donc. On va avoir des Morvandelles qui vont partir. Il va y avoir une mode de la nourrice Morvandelle. De 1850 à 1920, on veut d'abord une nourrice Morvandelle. Il y a eu des nourrices ailleurs, en Bretagne, en Auvergne, en Normandie. Mais la priorité, c'était d'abord une Morvandelle.
Alors, il faut dire aussi qu'on goûte,
On goûte le lait
à la mamelle, dans une cuillère en argent.
Oui, alors, les Morvandelles sont recrutées de deux manières. Soit on les emmène, on les fait monter dans des bureaux de placement à Paris. Et là, c'est monsieur qui vient avec le médecin de famille choisir une nourrice Morvandelle ou autre. Et comme vous disiez, on goûte le lait avec une petite cuillère en argent. On regarde s'il est de belle couleur, s'il est assez sucré, et l'affaire se fait ou pas. Et Nounou se retrouve au château ou à l'hôtel particulier.
Alors, derrière le recrutement de ces nourrices qui se rendent à Paris...
Et ailleurs, elles vont partout dans le monde.
Derrière les façades des beaux hôtels particuliers, il y a ce drame de l'abandon de l'enfant, parce que ces nourrices abandonnent leur bébé pour aller offrir leur lait à un enfant de la bourgeoisie et de l'aristocratie.
Alors ça, oui. Mais évidemment, elles étaient obligées. Le Morvan, c'était la misère noire, et ces Morvandelles avaient trouvé ce moyen de gagner de l'argent. Comme les hommes vont aussi s'exiler, et ils partiront galvacher, mais le galvacher, lui, part moins longtemps, que la nourrice reste environ 2 ans pour allaiter le nourrisson au château ou dans l'hôtel particulier.
Ce qui est formidable, et ce que montre bien votre livre, les nourrices dans la collection Mémoire en images aux éditions Sutton, c'est le lien durable que les nourrices entretiennent, réciproquement d'ailleurs, avec la petite ou le petit qu'elles ont nourri. C'est
évidemment
exceptionnel, cette reconnaissance de l'enfant, des grandes familles qui écrit à Nounou.
La nourrice va s'attacher à l'enfant qu'elle allaite. Ça, c'est normal. Et je voudrais dire aussi que dans ce dernier ouvrage, j'ai voulu aussi étendre aux nourrices étrangères, parce qu'on a eu le phénomène en France... les Bretonnes, les Alsaciennes, etc. Mais on s'aperçoit que dans toutes les régions pauvres d'autres pays, en Italie,
en Slovénie, en Espagne,
il y a des régions qui sont vraiment très très pauvres, et on a exactement le même phénomène de la nourrice Morvandelle et des nourrices de ces autres pays. Et là aussi, on commence à avoir des documents assez extraordinaires, des très belles photos.
Alors, les nourrices sont fort bien payées, elles sont bien nourries, bien logées. D'ailleurs, la librairie L'Autre Monde, vous avez vu, Noël a mis
un costume,
un très,
costume
très beau,
prêté par Noël, d'ailleurs.
Très beau costume de nourrice.
Parce que quand la nourrice arrive au château, on fait venir la couturière, et on fournit à la nourrice un costume d'été, un costume d'hiver. Et vous avez vu, donc, dans cette vitrine, elle porte sur la tête la coiffe blanche du Morvan et par-dessus ce qu'on appelle la couronne de ruban. Et ces couronnes de ruban étaient aux couleurs des familles. Donc, quand les nourrices se promènent dans les squares, on sait à la couleur des rubans qu'elles sont dans la famille de Rothschild, de Rebrézé, etc.
Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est aussi une découverte d'un mode de vie aristocratique ou très bourgeois. Elles voyagent, ces nourrices. Oui. Elles qui venaient de leur chaumière du Morvan avec leurs sabots, elles se retrouvent dans des palais, elles vont en Grande-Bretagne, elles découvrent la mer, l'océan.
Elles vont aux États-Unis, elles vont au Pérou, donc c'est assez extraordinaire. Et elles vont revenir, celles qui reviennent avec des souvenirs assez fabuleux. Et on les gâtait beaucoup. Donc on retrouve en Morvan des costumes, on retrouve des bijoux, on retrouve tous les cadeaux qu'on leur faisait, des pendules, des meubles.
Des ménagères en argent.
Oui, extraordinaire. Et ça, les gens ont bien conservé cette mémoire de la nourrice.
Alors, je sais que la question vous intéresse, Noël, et j'aimerais que vous répétiez votre position. Finalement, ces nourrices ont-elles été heureuses?
Oui, moi je
c'est la grande question.
Oui,
est-ce qu'elles
pense.
Ont bénéficié de la culture? Est-ce ouais. qu'elles ont appris un grand nombre de choses sur l'hygiène? Est-ce qu'elles ont été heureuses? Ou est-ce que c'est de l'exploitation? Je peux oublier le nom de ce docteur.
Docteur Monod qui va dénoncer ce phénomène. C'est lui qui va qualifier ce phénomène de l'industrie des nourrices. Mais il ne faut pas oublier que le docteur Monod lui-même, docteur de Montfauche, fait partir des nourrices. C'est lui qui signe les certificats. Alors, après, il dénonce ce phénomène. C'est un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que je pense que ces nourrices ont ramené en Morvan alors, des notions d'hygiène, des notions de confort. Elles ont beaucoup voyagé, elles ont appris des langues étrangères. Et ça, c'est... Elles ont gagné beaucoup d'argent. Et je pense que c'est le début de l'émancipation de la Morvandelle.
Et il n'est pas rare même qu'elles prennent le thé à 5 heures dans les
chaumières. Oui, puisqu'on ramène, madame a donné un service à thé. Oui, c'est assez extraordinaire. Je pense que c'était une belle expérience. Elles avaient laissé leur enfant, qui une fois sur deux va mourir, bien sûr, en Morvan. Mais c'était quand même assez merveilleux. Moi, j'aurais fait pareil.
Et votre arrière-grand-mère, elle est allée où?
Alors, mon arrière-grand-mère est partie à Paris. Elle était chez un avocat. Et on vivait une partie de l'année à Paris, une partie de l'année dans un château en Auvergne et une partie de l'année dans un autre château dans le Jura. Et on avait... Alors, elle ne voulait pas parler de cette période parce que c'est sa belle-mère qui l'avait poussée à partir. Donc, elle avait gardé une haine tenace contre sa belle-mère. Tous ses enfants avaient survécu, mais elle avait brûlé toutes les photos. Donc je n'avais pas mon arrière-grand-mère en photo. Et c'est au château où elle était dans le Jura que j'ai retrouvé son portrait de nourrice. Et là, donc la famille d'Aligny m'a confié un portrait d'elle. Mais 20 ans avant, ma trisaïeule, sa propre mère, était partie déjà nourrice. Et on gardait des contacts avec les familles. Donc ma trisaïeule avait été déjà chez les Debrézé, chez les Daligny. Et sa fille, 20 ans après, retourne chez les mêmes descendants. On gardait beaucoup de relations. Et bon, c'est vrai que ça fait quand même le 7e ouvrage. Et on retrouve des documents extraordinaires. Parce que dès qu'elles arrivent au château ou à l'hôtel particulier, on les emmène chez les grands photographes. On consigne ces photos dans les albums des châteaux, et puis ces photos les envoient en Morvan, où elles les ramènent quand elles reviennent, au bout de 2 ans, dans leur famille. Certaines ne sont pas revenues, donc elles n'ont pas envie de revenir, parce que quand on a goûté au château, à l'hôtel particulier, aux beaux costumes, à la bonne nourriture, c'était compliqué de retrouver le mari qu'on n'avait pas vu depuis 2 ans, et certaines vont rester sur Paris ou dans d'autres pays. Certaines vont tomber dans la prostitution, puisque c'était des jeunes et jolies femmes aussi. Et ça, c'est un autre chapitre.
Merci Noël Renaud, qui, vous l'aurez remarqué, est aussi à l'aise aux côtés des maquisards que des nourrices. Donc le dernier ouvrage de Noël Renaud, c'est Le Maquis Serge, chez aux éditions Sutton. Et puis Noël est une grande fidèle des éditions Sutton. On y trouve également donc les nourrices, avec un très grand nombre de photographies, souvent très émouvante, et des explications. Merci Noël d'avoir été à la fois l'invité de la librairie L'Autre Monde avec cette émission enregistrée en public et d'avoir également été l'invité de l'émission littéraire de Radio. Merci au public. Le public, on écoute le coup de cœur d'Evelyne Levallois et on vous donne la parole ensuite pour des questions aussi bien sur le maquis que sur les nourrices. Mais d'abord, la séquence coup de cœur par notre fidèle, car elle aussi, elle est fidèle d'entre les fidèles, c'est Evelyne Levallois, la librairie L'Autre Monde à Avallon. Evelyne, un roman donc.
Un roman, tout à fait, et un roman local, encore une fois, ça va être la soirée. Ça s'appelle Les Rouges de Pascal Fautrier, c'est paru au Seuil cette semaine. Pascal Fautrier est originaire de la région. Elle a eu une résidence d'écrivain à la maison Jules Roy de Vézelay il y a 2 ans. Elle sera en dédicace à la librairie le 27 juin, pour info. Et dans ce roman, ce gros roman, elle raconte l'histoire de sa famille, qui est originaire de Mailly-la-Ville, et on va couvrir la période qui va de la Révolution jusqu'à nos jours, à quelque chose près. Hein, l'action se déroule entre Mailly-la-Ville, Vézelay, Paris, Londres, Migennes aussi, parce qu'il y a toute une branche de la famille qui est à Migennes. Et dans ce gros roman social, dans cette grande fresque historique, on va couvrir l'histoire du communisme en France, depuis la Révolution jusqu'à la chute du mur de Berlin, à peu près, hein, là, au moment où le communisme n'existe plus vraiment. Donc il s'agit d'un gros roman populaire, du type Hugo ou Eugène Sue. C'est très très documenté, un récit de famille. C'est aussi des individus au service d'une cause, d'une idéologie qui vont tout sacrifier, hein, quitte à devoir renoncer à beaucoup de choses personnelles pour servir la cause. On croit encore beaucoup au parti, à l'idéologie à cette époque-là. Donc elle raconte trois siècles de militantisme de gauche, hein, depuis la Commune avec un grand C jusqu'à la fin du communisme. C'est une saga familiale, une saga sociale, c'est un grand roman historique assez dense, passionnant, qui met le département de Lyon vraiment au cœur de l'histoire de la France. Un petit peu la Nièvre, je sais qu'il y a Denis Vernet dans la salle, donc je le dis quand même. Le grand personnage historique, c'est Camélina, évidemment. Voilà. Donc Pascal Fautrier, Les Rouges au Seuil.
Merci Evelyne. Oui, vous pouvez l'applaudir. Alors profitons-en pour signaler les autres rencontres à la librairie, puisque notre émission est diffusée ce soir 21 mai, mais enregistrée en avril dernier. Alors le vendredi 30 mai, 18h30, c'est Jean-Yves Bourcier pour Le Bûcheron du Morvan. Là encore, Evelyne, il sera question de résistance.
Tout à fait.
Le vendredi 6 juin, Souffle poétique à la librairie L'Autre Monde avec Geneviève Peignier.
Et les éditions Potentille.
On se retrouve encore à la librairie autour de Lola Lafont le jeudi 19 juin. Et on enchaîne le vendredi 20 juin avec Jacques Capla pour un ouvrage sur...
l'agriculture bio.
Bien. Voilà. Et puis bien sûr, on tiendra informer nos auditrices et auditeurs des autres rendez-vous proposés à la librairie que nous essaierons parfois de couvrir si je peux être disponible. Merci Evelyne de nous avoir accueillis, merci à Carole, merci à Lorraine et à Nadine, merci à vous public, et puis bien sûr merci Noël, je rappelle Le Maquis Serge et puis Les Nourrices, c'est aux éditions Sutton. Le public, pour rester avec nous, pas seulement pour boire un verre mais aussi pour les questions, on coupe l'émission et je salue celles et ceux qui nous ont écoutés ce soir. Au revoir.